VOA Afrique, les infos. À Washington, Claire Morin-Gibourg.
Il est 13h à Dakar, 14h à Kinshasa. Bienvenue dans notre journal. Aujourd'hui dans l'actualité africaine, ouverture officielle de la campagne présidentielle en Guinée. Selon un décret du chef de l'État, Alpha Condé, la campagne électorale s'achèvera le samedi 10 octobre à minuit. 8 candidats, dont le président Condé, son adversaire malheureux du second tour de la précédente présidentielle en 2010, le chef de l'opposition Seloun Dalan Diallo, sont en lice. Le premier tour de la présidentielle est fixé au 11 octobre. Les deux précédents scrutins, la présidentielle de 2010 et les législatives de 2013, ont été émaillés de violences et d'accusations de fraude. Alpha Condé, ancien opposant qui a connu l'exil et la prison, est le premier président démocratiquement élu dans cette ex-colonie française, dirigée jusqu'alors par des pouvoirs autoritaires ou dictatoriaux. Au Cameroun, le gouvernement annonce avoir déboursé 12 millions de dollars pour satisfaire les revendications des militaires camerounais de retour de Centrafrique qui ont manifesté hier devant le quartier général de l'armée et l'Assemblée nationale à Yaoundé pour réclamer le paiement de 12 mois de solde. Les militaires en question avaient défilé dans la capitale en tenue de casque bleu et ils n'avaient arrêté leur manifestation qu'après une promesse de paiement faite en personne par le ministre de la Défense, Edgar Alain Mbembe Ngo. Le pape François se rendra fin novembre en Centrafrique. C'est ce qu'annonce l'AFP en précisant que le souverain pontife visitera également le Kenya et l'Ouganda pendant cette prochaine tournée sur le continent africain. Et puis Sénégal. Au Sénégal, le procès de l'ex-président tchadien Hissène Habré suit son cours à Dakar. Après la lecture de l'ordonnance de renvoi hier, le ballet des experts et des témoins a enfin commencé. Le compte-rendu de notre correspondante sur place, Soka Natambay.
Il s'agit surtout de définir le contexte historique, mais aussi de cerner la personnalité de l'ancien chef d'État. Celui-ci est présenté par l'historien Arnaud Dingamadji comme un homme brillant, fier et prêt à tout pour le pouvoir. Il est revenu sur la période entre le 7 juin 1982 et le 1er décembre 1990. Pourtant, vers le début des années 80, l'ancien président était apprécié par certaines puissances telles que la France ou les États-Unis. Ces pays ont été à ses côtés dans sa guerre contre le défunt dirigeant libyen Muammar Kadhafi. Washington a financé cette entreprise à hauteur de 12 milliards de francs, soit 25 millions de dollars. Paris, de son côté, a fourni le matériel et le personnel militaire nécessaire. Autre expert convoqué, Yahara Gassama Diop de l'École nationale des travailleurs sociaux spécialisés. Selon le parquet, la dame a été excusée suite à un empêchement de dernière minute. Concernant les témoignages, ils étaient aussi poignants les uns que les autres. Ousmane Abakar, victime et cultivateur au moment des faits.
Nombre de mes collègues ont été tués ou ont disparu. Beaucoup sont morts en prison suite au mauvais traitement, à la torture. Je rentre maintenant au pays avec l'esprit serein et plein d'espoir que le procès qui vient de commencer aboutira à un verdict juste et équitable.
Après la lecture de l'ordonnance de renvoi, c'est un sentiment de délivrance partielle qui habite les victimes. Clément Abefouta, président de l'association des victimes du régime de Hissène Habré.
Nous avons reconnu dans cette lecture nos noms, ceux de nos frères et sœurs tchadiens, ceux de nos parents. Aujourd'hui, dans le monde entier, nul ne peut ignorer l'étendue des horreurs que le peuple tchadien a subies de 1982 à 1990.
Les avocats de la défense continuent de bouder la salle d'audience. Maître Georges-Henri Bautier, de la partie civile, lui, a émis une réserve après la lecture de l'ordonnance de renvoi.
Nous allons soulever la question qui n'a pas été tout à fait toujours reprise par l'ordonnance de renvoi, qu'il était pour nous souvent à la fois l'exécutant direct et à la fois le supérieur hiérarchique. C'est simplement demander qu'on prenne acte de nos réserves, qu'on va plaider, on joue franc jeu.
Le défilé des témoins et des experts se poursuit. Le régime d'Abré a été mis à nu, ainsi que ses méthodes de torture. Lui, par contre, était muet comme une carpe, même quand il a été appelé à la barre, toujours en turbané. Une requête a été adressée à la Chambre afin qu'Abré retire son turban. Mais le juge a décidé de ne pas statuer pour l'instant. Sornana Natambay, Dakar, VOA Afrique.
En République centrafricaine, la mission de l'ONU, la MINUSCA, condamne la série d'attaques à la grenade menée par des inconnus armés à Bangui, qui a fait plusieurs morts et blessés hier soir. Plus de détails avec notre correspondant sur place, Freeman Sipila.
Il est 19h local lorsque les assaillants en tenue militaire, dont l'identité n'est pas encore connue, ont largué la première grenade devant le marché de Pétévaux. Selon un haut responsable de la police, 4 personnes ont perdu la vie sur place et plus d'une dizaine d'autres blessées. Toujours selon la police, les mêmes personnes ont largué une seconde grenade dans un bar dancing. Ici, on compte 2 morts et des blessés. La troisième explosion, enfin, s'est produite à quelques mètres de là, précisément à Kitengiri, où les 3 hommes à moto ont encore fait des victimes. Pour l'instant, l'attaque n'est pas encore revendiquée. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Et des enquêtes sont en cours pour identifier les auteurs de ces crimes afin qu'ils répondent de leur forfait devant la justice centrafricaine, précise le communiqué de la MINUSCA. En République démocratique du Congo, plusieurs centaines de cas de violation des droits humains enregistrés dans le pays au mois d'août. C'est ce qu'a révélé hier un rapport de l'ONU. Les explications de José-Marie Aranaz, directeur du bureau conjoint de l'ONU pour les droits de l'homme, au micro de Thierry Kabundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a enregistré 409 violations des droits de l'homme dans les mois passés. La majorité des violations des droits de l'homme à l'Est. Les provinces plus touchées sont les provinces orientales, Nord Kivu et Sud Kivu. Les agents de l'État seront responsables de la majorité des violations des droits de l'homme avec 216 violations des droits de l'homme et 330 victimes. Et il faut souligner qu'on a enregistré 20 cas d'exécution sommaire extrajudiciaire. Les FRDC seraient responsables des nombres plus élevés de violations des droits de l'homme avec 93 violations enregistrées suivi par la PNC. Il faut aussi souligner qu'on a enregistré 24 violations des droits de l'homme qui ont un impact direct sur la crédibilité du processus électoral à l'avenir.
C'était José-Marie Aranaz, directeur du bureau conjoint de l'ONU pour les droits de l'homme à Kinshasa. Direction la Corne de l'Afrique, des hommes armés au Darfour ont tué par balle 2 fonctionnaires soudanais et se sont emparés de leur véhicule qui transportait des responsables de l'OMS et du ministère de la Santé. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui l'ONU. L'équipe enquêtait sur la présence du ver de Guinée au Soudan au moment de l'attaque. Le Darfour est le théâtre depuis 2003 d'affrontements entre l'armée alliée à des tribus et des rebelles qui réclament la fin de la marginalisation économique du Darfour et qui veulent un partage du pouvoir avec le gouvernement de Khartoum. Le conflit a fait plus de 300 000 morts et déplacé 2,5 millions de personnes. Le président soudanais Omar el-Béchir est inculpé depuis 2009 par la Cour pénale internationale de crimes de guerre au Darfour.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Et puis le reste de l'actualité dans le monde. Ici aux États-Unis, les villes de Washington, New York et Philadelphie se préparent à recevoir la visite du pape François à la fin septembre. Au micro de Jean-Roger Bion, les temps forts de la tournée papale qui commence à Washington avec le père Jean-Claude Atou-Samesso, prêtre catholique de l'archidiocèse de la capitale fédérale.
Le grand moment de cette tournée, d'abord lui-même qui arrive le 22, mardi à 16h, à la base militaire Andrews. Et le jour suivant, le 23, il a un petit déjeuner de réception de bienvenue à la Maison Blanche. Et après ça, il va aller rencontrer les évêques à la conférence épiscopale. Et le grand moment, c'est aussi la canonisation d'un saint américain. Et puis après, encore un grand moment qui sera à New York, où il va prier avec la communauté écuménique au World Trade Center et aussi à Philadelphie pour la rencontre des familles.
Le père Jean-Claude Atou-Samesso, prêtre catholique de l'archidiocèse de Washington. Crise des migrants, suite la Compagnie nationale des chemins de fer autrichiens, l'OBB, a annoncé aujourd'hui suspendre sine die ses liaisons avec la Hongrie en raison de la congestion massive, excusez-moi, de son réseau face à l'afflux de migrants désireux de se rendre en Allemagne. Et puis la Russie a démenti aujourd'hui le renforcement de sa présence militaire en Syrie après les inquiétudes exprimées par Washington concernant le déploiement récent de matériel et de soldats près de Latakié, fief alaouite du président Bachar el-Assad. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information dans 50 minutes. Restez avec nous 24 heures sur 24 sur notre site internet voafrique.com, mais également sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.